Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Xavier Martinet, Paloma Soria-Brown et Iseut Sicard. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. À la technique, Audrey Guélil.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Et si la pandémie de Covid-19 cachait une crise de plus grande ampleur encore, une crise écologique ? Certes, la paralysie de l'activité et le confinement de plus de la moitié de la population mondiale ont offert un répit à la planète, mais la crainte est grande de voir la reprise économique s'accompagner d'une explosion des émissions de gaz à effet de serre et d'un oubli des promesses. Alors la crise sanitaire permettra-t-elle un réveil écologique ou risque-t-elle au contraire de détourner l'attention de la lutte pour le climat ? Faut-il s'attendre au pire ou au meilleur ? Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Comment éviter la crise d'après ? Nous allons poser la question à nos deux invités. Bonjour François Gémène.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en sciences politiques, membre du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et directeur de l'Observatoire Hugo à l'Université de Liège. Avec nous également Mireille Chirolleux-Assouline, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste de l'environnement et professeur à l'École d'économie de Paris. Un grand merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui.
À quoi ça sert d'avoir tout arrêté, de s'emmerder à être confiné chez soi si c'est pour reprendre exactement comme avant ? C'est pas qu'avant ça allait très bien et que ça va revenir exactement comme avant après. Il y a deux catastrophes enchâssées l'une dans l'autre. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est que, en fait, malgré la situation tragique que nous vivons en ce moment, elle est moins tragique pour les gens qui s'intéressent à la mutation écologique qu'en janvier. En janvier, on voyait une société entièrement folle qui allait dans une espèce d'inconscience émouvante, bouleversante, vers une catastrophe que l'on sait simplifier très bien par la question de la température du climat mondial. Donc, ce qui est bouleversant pour moi dans cette situation, c'est que brusquement, on a un arrêt général, et ça serait quand même absolument terrifiant de ne pas profiter de cet arrêt général pour infléchir le système de production dont nous savons qu'il est responsable et qu'il nous précipite et qu'il nous accélère vers une catastrophe par rapport à laquelle celle du virus actuel est un minuscule petit problème.
L'anthropologue Bruno Latour, chez nos confrères de France Inter, le 3 avril dernier, notre système de production a une part de responsabilité dans la pandémie actuelle, François Gémène ?
Je dirais que d'une certaine manière, oui, puisqu'on sait que le Covid-19 est une zoonose, donc une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme, et c'est le cas d'environ 75% des maladies infectieuses émergentes aujourd'hui chez les humains, ce sont des maladies qui nous sont transmises par les animaux. Et c'était déjà le cas de la plupart des grandes épidémies qu'on a connues ces dernières années, la grippe H1N1, la grippe aviaire, Ebola, le VIH-Sida. Tout ça, ce sont des zoonoses. Et effectivement, ce qui fait qu'il y en a de plus en plus, c'est que nous détruisons sans cesse davantage les milieux naturels des animaux sauvages et que donc les animaux sauvages se rapprochent de plus en plus des habitations humaines, ce qui facilite bien entendu la transmission du virus de l'animal à l'homme. Après, bien entendu, il y a d'autres types de facteurs qui ont également favoriser son émergence. Paradoxalement, le fait que le pangolin, si c'est bien le pangolin qui est à l'origine de l'épidémie, n'ait pas été mieux protégé, qu'on ait été incapable de faire respecter les normes de protection de ces espèces en danger, ou si la mondialisation, qui évidemment favorisait le déplacement du virus à grande échelle et à grande rapidité, cette pandémie est quelque part liée à la manière dont nous avons détruit les habitats des espèces sauvages.
Mireille Chirolleux-Assouline, c'est important de rappeler ce lien entre la destruction de la biodiversité et la multiplication des maladies infectieuses pour comprendre la crise que nous traversons aujourd'hui.
Pour comprendre les aspects sanitaires, oui, c'est important. C'est important également pour attirer l'attention sur le fait que les activités économiques ont des conséquences dramatiques, finalement, sur la capacité de la planète d'abriter les sociétés humaines. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu dans l'histoire, au cours des siècles, de très nombreuses autres maladies qui sont également d'origine animale. Je ne sais pas si la crise actuelle, si cette pandémie pandémie est le signe d'une accélération de ces mécanismes de transmission des maladies animales à l'homme, ou si c'est seulement l'une de celles-ci. Je ne sais pas s'il y en aura davantage. Maintenant, ce qu'on sait à coup sûr, c'est que les animaux sauvages dans les habitats qui subsistent sur la planète sont des réservoirs de milliers, voire plus, de maladies encore inconnues.
Certains scientifiques estiment que c'est la diversité génétique et la disparition de la diversité génétique qui empêcherait de maintenir ce fameux effet de dilution qui empêche la transmission des virus. D'autres estiment que la domestication animale favorise les maladies infectieuses. Qu'est-ce que vous en pensez, François Gemen?
Je crois que nous devons être bien davantage conscients des impacts sanitaires de la destruction des milieux naturels, que ce soit au travers de la perte de la biodiversité ou du changement climatique. Ce que nous infligeons à la Terre a des conséquences sanitaires très très importantes. Et je crois que pour beaucoup, la crise actuelle est une réalisation que les questions de perte de la biodiversité, c'est pas juste un truc pour les arbres et les oiseaux et les animaux, mais ça a des conséquences directes sur notre santé et de facto sur notre économie. Et de la même manière, le changement climatique a aussi une influence considérable sur la géographie de toute une série de maladies infectieuses. Je pense à la malaria, je pense à la chikungunya, je pense à la dengue. Toutes ces maladies vont être influencées d'une manière ou d'une autre par le changement climatique. Et donc, je pense qu'il est absolument vital qu'aujourd'hui, nous considérions avec davantage d'intérêt et d'attention les impacts sanitaires de la destruction de l'environnement, du changement climatique ou de la perte de la biodiversité.
Alors, la pandémie de Covid-19 pourrait-elle être l'occasion, justement, d'accélérer la transition écologique? Ce que l'on a déjà constaté, c'est une diminution importante des émissions de CO2 en raison de la paralysie d'une partie de l'économie mondiale. Mireille Chirolle-Assouline.
Oui, c'est tout à fait vrai, mais c'est totalement automatique. On fait face à une réduction sans précédent des émissions mondiales de CO2. L'Agence internationale de l'énergie estime que les émissions vont décroître de 8% par rapport à l'année précédente. Donc ça, ce sont des évaluations pour l'instant. Mais d'abord, c'est très faible par rapport à ce qui serait nécessaire pour réduire le risque de changement climatique. Et puis, c'est très faible aussi parce que c'est purement transitoire, c'est-à-dire que rien n'a changé dans l'économie, simplement on s'est arrêté. C'est-à-dire qu'il se passe à peu près la même chose que lorsque dans votre appartement vous éteignez la lumière. Vous ne consommez plus d'énergie, d'accord, mais dès que vous rallumez, vous allez en consommer autant. Et c'est ce qui se passe actuellement, les structures n'ont absolument pas changé, et ce n'est pas après quelques mois d'arrêt des activités productives que celles-ci peuvent avoir changé. Par conséquent, il n'y a pas d'impact à long terme de cette réduction des émissions.
On est d'accord sur le caractère temporaire, mais c'est tout de même intéressant de voir que les seules émissions chinoises de CO2 ont chuté de 25% sur le mois de février par rapport à la même période en 2019. François Gemen, on a tout de même dépassé les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, même si j'entends bien que c'est à la fois temporaire et non volontaire.
C'est en tout cas pédagogiquement intéressant. Je dirais que le paradoxe de cette crise dans son rapport avec le climat, c'est que pour la première fois, nous respectons les objectifs de l'accord de Paris et nous le faisons non pas grâce à des mesures de politique climatique, mais nous le faisons en raison de mesures de protection sanitaire. Et donc ça, en soi, est intéressant et dit beaucoup de l'inefficacité des politiques climatiques que nous avons menées jusqu'à présent. Ça a un impact aussi, je dirais, pédagogique, parce que quelque part, nous faisons une expérience en temps réel. Qu'est-ce qui se passerait si nous arrêtions l'activité économique, si nous la mettions en pause et si nous restions confinés chacun chez nous? Eh bien, ce qu'on voit, c'est que les émissions mondiales de gaz à effet de serre ne baissent que de 8%, ce qui quelque part souligne vraiment le fait que le changement climatique est un problème structurel et non conjoncturel, et que tant que nous n'aurons pas transformé ces macrostructures de l'économie, eh bien tout ce que nous pourrons faire individuellement restera malgré tout, je ne vais pas dire vain, mais restera insuffisant, restera important, mais insuffisant. Et donc je dirais que c'est vraiment une expérience pédagogique en temps réel qui souligne quelque part la nécessité de transformer profondément l'économie. Il ne va pas s'agir de la mettre sur pause et puis de la faire repartir comme avant. Il va véritablement falloir changer de logiciel si nous voulons lutter efficacement contre le changement climatique. C'est pour ça, je crois, qu'il faut absolument se garder de l'idée qu'il faille demain mettre en œuvre contre le changement climatique le même type de mesures que celles que nous appliquons aujourd'hui contre le coronavirus, parce que ça donnerait l'idée qu'il suffit de tout arrêter pour lutter contre le changement climatique, et ce n'est à l'évidence pas vrai, et ce n'est en plus pas tenable dans la durée. Le climat a besoin de baisses soutenues d'émissions de gaz à effet de serre que nous puissions tenir dans la durée, et pas d'une année blanche comme l'année 2020, qui aura finalement très très peu d'impact sur le changement climatique lui-même.
Mais c'est intéressant aussi de voir que ce confinement et cet arrêt de l'activité économique soulignent le nombre de morts évitées grâce à cette diminution de la pollution. Selon le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur basé en Finlande, la baisse des émissions de particules fines et de dioxyde d'azote aurait permis d'éviter 11 000 morts en Europe. Là aussi, c'est une étude qui interpelle, Mireille Chirolet-Assouline.
Oui, alors elle n'étonne pas les économistes de l'environnement qui suivent ces chiffres de mortalité estimés depuis longtemps. Certains vous répondront que éviter 11 000 morts alors qu'on en a connu plusieurs centaines de milliers d'ici la fin de la crise.
Plus de 200 000 dans le monde. Oui, ça ne dit pas qu'il ne fallait pas faire le confinement, simplement ça met en valeur ces gens qui souffrent et qui peuvent mourir de la pollution.
Bien sûr, mais on peut aussi ajouter les morts évitées par l'absence de circulation routière, mais on peut aussi comptabiliser d'un autre côté ce que font certains médecins actuellement, les morts supplémentaires parce que certains malades hésitent à aller aux urgences. Toute cette comptabilité est compliquée maintenant que la pollution de l'air provoque une mortalité extrêmement importante en Europe en particulier et en Chine surtout. Ça, c'est un fait. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, dans certains pays, les politiques de lutte contre le changement climatique sont plus acceptées parce qu'elles sont motivées par le souci qui est souvent joint de lutter contre la pollution de l'air. C'est le cas en Chine dans certaines régions, c'est le cas en Europe dans certaines, et encore, il faudrait que ça le soit davantage, puisque par exemple, en Pologne, la plupart des grandes villes polonaises sont extrêmement polluées en raison de l'usage du charbon, et ça ne change pas grand-chose à ce que souhaite faire la Pologne en termes de politique climatique.
Mais là où il est effectivement peut-être difficile de se réjouir de cette diminution des gaz à effet de serre, c'est que il y a un risque important, François Gemène, que la reprise économique s'accompagne justement d'un fort rebond de ces émissions. C'est ce qui s'était passé après la crise financière de 2008.
Effectivement, moi je crains que la crise actuelle ne soit pas du tout une bonne nouvelle pour le climat et soit au contraire une sorte de bombe à retardement, et que derrière l'illusion de la baisse temporaire des émissions de gaz à effet de serre, ce qui nous attend derrière, ce soit un rebond important des émissions de gaz à effet de serre. On a vu effectivement qu'après la crise économique et financière de 2008-2009, il y a eu un rebond très important des émissions en 2010, où elles avaient progressé de plus de 5%, et donc elles avaient rebondi à un niveau très supérieur à celui qu'elles occupaient avant la crise. Il est possible que la même chose se produise cette fois-ci. Et puis surtout, je vois que la crise actuelle est une sorte d'excuse, de prétexte pour une offensive assez généralisée de toute série de lobbies qui essayent de détricoter, de déconstruire l'échafaudage de protection de l'environnement que nous avions patiemment bâti au cours des dernières années. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup qui s'inquiètent que l'on puisse revenir dans le monde d'avant ou dans l'économie d'avant. Moi, ce qui m'inquiète, c'est même pas tellement ça, c'est qu'on revienne 15 ou 20 ans en arrière dans le monde d'avant, le monde d'avant. Et ça, c'est un vrai motif d'inquiétude. L'autre motif d'inquiétude, il touche à la coopération internationale. On voit aujourd'hui qu'on est face à une crise mondiale, mais qui a appelé des réponses nationales très très différentes les unes des autres, sans guère de coordination internationale, et que les institutions internationales, le multilatéralisme se trouve un peu aujourd'hui en lambeaux. Or, nous aurons besoin demain de davantage de coopération internationale pour lutter contre le changement climatique. On n'arrêtera pas le changement climatique en fermant les frontières. Et donc, moi, c'est une vraie crainte que j'ai pour la COP26 et globalement pour le futur de la coopération internationale sur le sujet du climat et sur le sujet d'autres crises d'ailleurs.
Alors, il faut rappeler que la COP26, qui devait se tenir à Glasgow au mois de novembre, a été reportée. Vous craignez, vous aussi, Mireille Chirolet-Assouline, que cette coopération internationale ne soit pas à la hauteur en matière d'environnement ?
Ah, je partage tout à fait les craintes de François Gemène. Il est absolument clair que toutes les forces actives, économiques, ou quasiment, sont actuellement en attente de reprendre leurs activités comme si rien n'avait changé, ou même s'efforcent de profiter actuellement de la crise pour demander le report de certaines régulations, le report de certaines actions qui étaient déjà mises en œuvre ou qui étaient à l'étude. On ne peut que constater que tous les lobbies se sont manifestés au niveau européen successivement à partir du mois de mars et durant tout le mois d'avril pour demander sur différents tons qu'on reporte les obligations qui étaient prévues jusqu'à présent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre en particulier, mais sur d'autres aspects environnementaux. Donc, il est clair que les industries ne projettent pas du tout de saisir cette opportunité de changer leur comportement. Le raisonnement qu'elles vont opposer à cette demande qui pourrait émaner de la société civile de changer de comportement, le raisonnement, ça va être de dire qu'il leur serait nécessaire pour cela de faire des investissements, que les investissements sont coûteux et qu'elles ont perdu trop d'argent durant la crise pour pouvoir investir ce qui serait nécessaire et donc qu'il faut attendre et reporter à plus tard les investissements qui pourraient être faits.
On va voir effectivement comment s'organisent les rapports de force, en particulier en Europe, mais aussi dans l'Hexagone. Mais d'abord, j'aimerais qu'on aille du côté des États-Unis afin de voir si cette pandémie pourrait en effet ralentir la transition vers un monde bas carbone. Parmi les signaux inquiétants, on peut relever la décision de l'Agence de protection de l'environnement américaine de suspendre ses contrôles durant la pandémie de Covid-19. L'agence s'inscrit désormais dans la ligne climato-sceptique de Donald Trump, Mireille Chirolo-Assouline.
Oui, ce n'est pas très étonnant puisque le responsable de l'agence qui a été nommé par Donald Trump est sur la même ligne que lui. L'agence elle-même ne l'était pas. Mais c'est une volonté depuis le début du mandat de Donald Trump de voir réduire les contraintes qui s'imposent aux entreprises. Donald Trump a toujours un discours qui consiste à dire il faut libérer les entreprises. Par conséquent, la dérégulation et le mouvement naturel, c'est quelque chose qui est encore accentué par les contraintes qui sont subies par l'industrie pétrolière aux États-Unis actuellement en raison de la baisse du prix du pétrole. Et ça, c'est quelque chose que ne peut pas supporter le président américain. Donc, je ne crois pas que les États-Unis étaient sur une trajectoire menant à moins d'émissions américaines. Et bien sûr, il s'en éloigne encore plus.
François Gemène.
Ce qui me paraît vraiment terrible dans cette décision de l'agence américaine de ne plus faire appliquer ses propres règlements, ce n'est pas tellement, au fond, les violations de l'environnement auxquelles ça va inévitablement mener, mais c'est aussi le message politique qui est envoyé et qui me paraît extraordinairement dommageable. L'idée qu'au fond, les règlements de protection de l'environnement soient des entraves à la bonne marche de l'économie. Et ça, je pense que c'est un message absolument terrible qui est en train d'être envoyé.
Et c'est intéressant de voir qu'on assiste encore une fois à un rapport de force entre le président et un certain nombre d'États américains comme la Californie, notamment sur le fait que les constructeurs automobiles doivent réduire les consommations de carburant de leurs véhicules de 5% par an jusqu'à 2026. Ça, c'était une des mesures phares adoptées sous la présidence de Barack Obama et Donald Trump l'a remise en question. Il l'a diminuée à 1,5% par an. Mais il y a un certain nombre d'États, donc comme la Californie, mais aussi d'entreprises comme Ford, BMW, Volvo, Volkswagen, qui ont dit qu'ils acceptaient, eux, de respecter les normes imposées par les États et les normes environnementales. C'est intéressant de suivre ces rapports de force en ce moment, François Gemène.
Oui, et c'est aussi un beau test du fédéralisme américain, quelque part. Ce qui me frappe, effectivement, c'est que parfois, les entreprises sont davantage enclines à accepter une série de réglementations environnementales que les élus eux-mêmes, a fortiori, ce sont des élus populistes et climato-sceptiques. Il faut se souvenir qu'au moment où Donald Trump envisageait de se retirer de l'accord de Paris, une série de grandes entreprises américaines, y compris certaines des plus polluantes comme Exxon ou DuPont, avaient publié une lettre ouverte en demandant à Donald Trump de rester dans l'accord de Paris. Alors ça peut paraître surprenant, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que redoutent le plus les grandes entreprises, c'est l'incertitude par rapport aux cadres normatifs et réglementaires qui leur seront appliqués dans le futur. Et que tant que ces cadres sont jugés équitables et sont appliqués à tous de la même manière, je pense que les entreprises peuvent les accepter parce qu'elles peuvent construire leurs investissements futurs et leur business plan, comme on dit, en fonction de cela, et que vraiment, ce qu'elles vont redouter davantage encore que les réglementations environnementales, c'est l'incertitude et le flou par rapport au fait qu'on entre et puis qu'on sort, qu'on applique et puis qu'on n'applique plus.
Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose.
Oui, Mireille Girolet-Assouline.
Il y a un élément fondamental qui peut faire que des entreprises polluantes acceptent la réglementation, c'est qu'elles ont déjà commencé à investir de façon à se soumettre à ces réglementations. Mmh. Et pour l'accord de Paris et les compagnies pétrolières, par exemple, ce qui est très clair, c'est que les compagnies pétrolières voyaient dans la réglementation, dans une trajectoire décarbonée, la possibilité de rendre le gaz qu'elles produisent, le gaz naturel, beaucoup plus compétitif que le charbon. Et donc, ça leur permettait de gagner des parts de marché. Pour les constructeurs automobiles qui ont commencé à investir dans des véhicules plus propres, il est évident qu'ils préfèrent se montrer vertueux et avoir une chance de devoir s'ouvrir des marchés pour leurs véhicules plutôt que de devoir faire marche arrière.
Vous disiez, François Gémène, que la récession et que la crise du Covid-19 était une mauvaise nouvelle pour l'environnement. C'est le cas notamment dans les pays du Sud où le besoin de croissance sera vital et risque donc de se faire au détriment du climat.
Effectivement, il est certain que face à toute une série d'investissements que vont devoir faire une série de pays du Sud, a fortiori avec des prix du pétrole très très bas, il est certain que ça va retarder, je crois, les investissements dans une économie décarbonée, qu'on va plutôt avoir tendance, à quelque part, à s'appuyer sur une économie carbonée, a fortiori, si les prix du pétrole sont très très bas. Moi, c'est une crainte que j'ai, et effectivement, il est encore trop tôt pour dire quel sera exactement l'impact économique dans les pays du Sud, mais vraiment, je crains que la crise économique ne retarde beaucoup l'émergence d'une économie décarbonée, alors que pourtant, il y a là une certaine forme d'opportunités à saisir puisque les gouvernements vont avoir à leur disposition un levier massif de planification de l'économie avec les plans de relance et les milliards d'euros, de dollars ou de yuan qu'ils vont injecter dans l'économie. Ils vont pour la première fois depuis longtemps retrouver en quelque sorte une certaine forme de contrôle sur les manettes de l'économie et de sa planification. Et je crains fort que faute d'avoir des plans prêt sous la main dans les cartons, je crains fort qu'ils ne remettent une pièce dans l'économie d'avant, qui est une économie carbonée, plutôt que d'investir dans une économie décarbonée. Et ça risque d'être le cas, a fortiori, je le crains, dans les pays émergents ou dans les pays en développement.
Et pourtant, selon l'économiste Esther Duflo, il y aurait, au sein de la population indienne, au sein de la population chinoise, une pression qui monte en faveur de l'environnement. Mireille Girolet-Assouline, est-ce qu'il faut en attendre une plus forte mobilisation des gouvernements chinois et indiens en faveur de l'environnement ?
J'ai l'impression qu'en Chine, dans certaines régions, c'est ce qui a pu se produire. La pression pour l'amélioration de la qualité de l'air, par exemple, a conduit à prendre un certain nombre de mesures. En Inde, je ne sais pas véritablement si la pression de la société civile peut contrebalancer les intérêts de l'industrie lourde qui pollue énormément, d'autant plus que si les ménages indiens ont affaire face à un arbitrage entre perdre leur emploi ou voir leurs revenus diminuer et par ailleurs adopter une trajectoire plus exigeante d'un point de vue écologique, eh bien comme les citoyens de tous les pays, ils risquent de préférer simplement leur espérance de niveau de vie, parce que le problème n'est pas le même d'ailleurs que dans un pays riche où il s'agit de faire quelques sacrifices. Dans des pays pauvres, c'est davantage une question de survie.
François Gémène, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Peut-être un élément dont on n'a pas beaucoup parlé et qui peut paraître relativement anecdotique, mais qui est pourtant important, c'est aussi l'impact de la crise économique sur la biodiversité. Bien sûr, je crois que notamment en Chine, toute une série de mesures de protection des espèces en danger vont être appliquées avec beaucoup plus, je dirais, de force. On sait que la Chine a par exemple reclassifié le chien de bétail en animal domestique, ce qui veut dire que la consommation des chiens va être beaucoup plus encadrée en Chine à l'avenir. J'imagine que la protection du pangolin, etc., va s'en trouver renforcée. Mais par contre, là où il pourrait y avoir un impact assez dramatique en matière de conservation de la biodiversité, c'est avec la chute du tourisme international. On sait que dans plusieurs pays en développement, c'est le tourisme et l'écotourisme en particulier qui permet des mesures de conservation de la biodiversité des espèces sauvages, notamment via des parcs naturels, je pense à des pays africains. Et là, ce qu'on voit dès maintenant, c'est que la chute du tourisme qui est évidemment lié à la crise sanitaire, fait que toute une série d'associations de protection de la biodiversité, toute une série de parcs naturels sont en grande difficulté financière et vont sans doute devoir renoncer à leur mission de protection. Et donc on voit bien comme on est là face un peu à un serpent qui se mord la queue. C'était une conséquence de la crise sur la biodiversité dont on ne parle pas suffisamment et qui, à mon avis, méritait d'être soulignée.
Alors, il y a des sources d'inquiétude, mais il y a aussi peut-être des motifs d'espoir, et notamment le fait qu'en France, le confinement aura tout de même été une expérience de moindre consommation, en France comme ailleurs. Alors, quel impact est-ce que cela pourrait avoir, selon Esther Duflo? À nouveau, les gens sont capables de changer leurs habitudes beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, François Gébène?
J'aimerais y croire, mais j'avoue que je ne suis pas aussi optimiste et je crois que la privation, pour beaucoup, leur a aussi fait réaliser à quel point toute une série de biens de consommation ou de loisirs, en réalité, leur étaient précieux. J'aimerais croire, effectivement, qu'on puisse aller vers davantage de sobriété. J'ai peur que ce ne soit le contraire, et je pense qu'il faut être bien conscient aussi du fait que, en même temps que beaucoup aspirent aujourd'hui ou réfléchissent à un monde d'après, c'est un peu un luxe de réfléchir à ce monde d'après. L'aspiration première, je crois, d'une majorité de la population, ça sera simplement de retrouver sa vie d'avant, de retrouver ses commerces, de retrouver ses collègues, de retrouver son travail, voire même parfois de retrouver du travail pour ceux qui ont été mis au chômage. Et donc, je pense qu'il faut pas sous-estimer l'aspiration très forte qu'il y aura à retrouver la vie d'avant. Le grand défi pour ceux qui imaginent le monde d'après, ça sera de voir comment on peut le rendre tangible et désirable pour tous ceux qui aspirent avant tout à retrouver leur vie d'avant.
Le monde d'après ne sera pas un monde de moindre consommation pour vous non plus, Mireille Chirollat-Souline?
Je partage de nouveau l'avis de François Gébène. J'ai l'impression que le seul domaine dans lequel il peut y avoir des modifications plus durables, c'est le domaine des transports. Mais là aussi sous la contrainte, mais cette contrainte peut amener certaines modifications un peu plus pérennes. L'impossibilité de prendre les transports en commun de la même façon lorsque va s'ouvrir le déconfinement va conduire de très nombreux Français, par exemple, à utiliser d'autres modes de transport qu'ils ne pensaient pas possible d'utiliser jusqu'à présent ou qu'ils préféraient ne pas utiliser. Aller travailler à pied ou en vélo, par exemple. Et donc, là, il peut y avoir des modifications. Alors, il ne faut pas se leurrer non plus. Je ne veux pas être d'un optimisme béat parce qu'on ne sait pas si ce sont ces modes de circulation doux qui vont l'emporter ou si on ne va pas avoir, au contraire, un rebond de l'utilisation de l'automobile individuelle. Et là, certains phénomènes qui apparaissaient depuis quelques années risquent de disparaître tant que le virus sera autour de nous. Ce sont tous les phénomènes, par exemple, de partage d'automobiles. Il est vraisemblable qu'on va avoir de plus en plus de voitures circuler avec une seule personne dans la voiture, même sur des relativement petites distances.
C'est même une recommandation sanitaire pour ceux qui prennent la voiture.
Bien sûr.
Voilà, alors certaines bonnes habitudes vont peut-être perdurer. Et l'une de ces habitudes, c'est le fait que les responsables politiques écoutent de plus en plus les scientifiques pour prendre un certain nombre de décisions. Est-ce que ça pourrait être le cas à l'avenir en matière environnementale davantage que ça ne l'est aujourd'hui, François Gébène?
C'est possible en effet, et c'est vrai qu'on a été frappé dans la gestion de la crise du coronavirus par l'importance qu'avait prise la parole scientifique, l'importance qu'avaient pris les experts et leurs recommandations, y compris même lorsque leurs recommandations partaient parfois en sens divers et confus. On voit bien que sur des sujets essentiels comme le port du masque, par exemple, ou les mesures de déconfinement, les experts ne vont pas tous dans le même sens. Et donc, bien sûr, on peut imaginer qu'il prenne davantage d'importance dans les débats publics et dans la décision à l'avenir, mais je crois que ce qui sera vraiment essentiel pour nous faire progresser collectivement, c'est que la population soit mieux informée de la méthode scientifique et des procédures qu'elle doit respecter. On a vu la controverse autour du professeur Raoult à Marseille et de ses méthodes, ce qui génère la controverse, en réalité, c'est que la population connaît mal, au fond, les procédures scientifiques qui doivent être respectées. Donc, on se dit, finalement, s'il y a un médicament qui marche, pourquoi est-ce que on ne généralise pas son traitement à l'ensemble de la population? Je crois que vraiment, si on veut avoir un dialogue qui soit meilleur entre scientifiques et politiques, mais aussi si on veut avoir une parole scientifique qui soit davantage écoutée dans les débats publics, il y a une nécessité, en quelque sorte, d'alphabétisation scientifique de la population, de lui expliquer quelles sont les méthodes scientifiques, de lui expliquer pourquoi un article publié dans une revue scientifique n'a pas la même valeur qu'un post sur Facebook. Ça, je pense qu'il y a vraiment une nécessité de pédagogie par rapport aux méthodes de la science et par rapport à la manière dont elle est fabriquée et aussi aux controverses qu'elle peut générer.
La crise du Covid-19 va-t-elle ralentir ou au contraire accélérer la transition vers un monde bas carbone? Qu'en est-il du côté de l'Europe? Ce que l'on constate, c'est que chacun avance ses pions en cette période de crise. On en parle dans un instant.
Moissonner à l'hiver de la gaieté. La discorde pour les jours de fierté. Incertaines sont l'époque et les peurs. L'encre coule et durs sont les labeurs. Je lui offrirai un compagnon. Je donnerai des plantes à mon poisson. Le plancher craque et le seau est percé. La vie passe vite et tu n'as rien fait. Écaillé, cet homme sans ambition, sans avenir et sans situation. Un mensonge, une petite trahison. Je donnerai des plantes à mon poisson.
Écoutez Moissonner de Gisèle Pape, extrait de son EP sobrement intitulé Oiseau. Notre discussion sur ce que le Covid-19 va changer à la lutte pour le climat se poursuit. Le politiste François Gémen et l'économiste Mireille Chirolet-Assouline sont toujours avec nous sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Alors la lutte pour le climat sera-t-elle sacrifiée au nom de la relance de l'économie? En Europe, force est de constater que le coronavirus met le Green New Deal à l'épreuve, François Gémen.
On voit aujourd'hui effectivement une série de gouvernements emmenés par la Pologne et la Tchéquie qui remettent en cause ce Green New Deal, qui demandent qu'il soit abandonné. Alors on a en face une dizaine de gouvernements qui demandent au contraire que ce Green New Deal soit l'élément essentiel de la relance économique.
17 gouvernements.
Je suis plus inquiet des 10 gouvernements qui ne le soutiennent pas que des 17 gouvernements qui le soutiennent. Parce qu'il faut rappeler que c'est un accord politique qui avait été acté avant le début de la crise, que je pense que c'est exactement le type de plan dont l'Union européenne a besoin pour se relancer à la fois économiquement et politiquement après la crise, que la chance que nous avons, Européens, c'est que nous avions ce plan dans les cartons. Il me semble que la crise lui donne une importance, une pertinence nouvelle qui mériterait qu'il soit déployé à plus grande échelle. Et je m'inquiète de voir aujourd'hui que 10 gouvernements, effectivement, font pression sur la Commission pour qu'il soit abandonné, retardé ou raboté. Je pense que ça serait une erreur monumentale à faire, à la fois économiquement et aussi politiquement.
On peut se demander, par exemple, si l'engagement de l'Union européenne d'atteindre la neutralité carbone en 2050 sera remis en cause, Mireille Chirolle Assouline. Qu'est-ce que vous en pensez?
On peut se le demander en effet, puisque à la fois certains gouvernements pèsent pour que les engagements soient remis en cause, et comme je le disais tout à l'heure, des entreprises et des lobbies pèsent également dans ce sens-là. C'est un risque très fort.
Avant même 2050, il y a l'échéance de 2030 et notamment la question de diminuer de 40% ou de 50% ou même de 55% les émissions de gaz à effet de serre. Il y a des arbitrages qui ont lieu en ce moment même.
Oui, et le risque que l'on court actuellement même, c'est à court terme que la baisse des émissions qui est observée conduise à un effondrement du prix du carbone sur le marché. Cet effondrement justifierait que les entreprises ne fassent pas les investissements qui sont nécessaires. Et ce qu'il faudrait faire, par exemple, c'est montrer dès aujourd'hui que le changement climatique est toujours une priorité. Et par exemple, établir un prix plancher de ce prix du carbone afin que nous ne soyons pas dans la situation qui était celle des pays de l'ancienne Union soviétique qui vendaient de l'air chaud sur le marché du carbone. Actuellement, les contraintes carbone qui pèsent sur les entreprises en raison du marché européen de quotas d'émissions négociables ne sont plus contraignante. Par conséquent, il n'y a plus aucune incitation à détenir des quotas, il n'y a plus aucune incitation à en acheter, donc ce qui conduit à un effondrement du prix, c'est purement artificiel et transitoire, mais ça peut avoir des effets de long terme.
François Gémen.
Deux choses ici, rapidement, sur la question du prix plancher du carbone, c'est le moment ou jamais. Les prix du pétrole sont extraordinairement bas, plus personne, ou presque, n'utilise du pétrole, donc ça serait vraiment le moment, si on voulait fixer un prix plancher pour le carbone, de saisir l'opportunité. La deuxième chose que je voulais dire, c'est sur ces objectifs à 2050 ou à 2030. Je pense que la crise actuelle doit nous inciter à réfléchir sur la pertinence d'avoir des objectifs d'aussi long terme. En 2050, j'aurai 70 ans. Une partie de ceux qui nous écoutent aujourd'hui seront sans doute morts à cette date. Qu'est-ce que ça veut dire si on se donne aujourd'hui des objectifs aussi lointains? Je suis très frappé de voir que pour le coronavirus, nous guettons chaque jour, comme le lait sur le feu, les courbes journalières d'hospitalisation ou des décès, et que pour le changement climatique, nous avons des horizons lointains qui parfois dépassent l'espérance de vie de beaucoup d'entre nous. 2050 ou 2100, ça ne dit rien aux gens. Je crois que si nous voulons quelque part maximiser ce qu'on peut faire, il faut abandonner ces objectifs de long terme et se demander qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, comment est-ce qu'on va se mettre aujourd'hui, demain, dans une trajectoire soutenue de réduction d'émissions. Je crains que si on garde ces objectifs de long terme, on attende le dernier moment pour agir enfin.
Alors je vous propose maintenant d'écouter celle qui a porté ce Green New Deal, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
We should bounce back better from this pandemic.
Nous devons sortir meilleurs de cette pandémie. Nous pouvons rendre notre société et notre planète plus saines en investissant dans les énergies renouvelables, en conduisant des voitures propres, en rénovant nos maisons, en les rendant efficaces du point de vue énergétique, en achetant une alimentation durable, en recyclant les matériaux plutôt qu'en les jetant, en produisant un acier bas carbone. C'est l'essence du Green Deal européen. Le Green Deal européen, c'est un agenda pour transformer notre économie, la rendre plus compétitive et améliorer notre qualité de vie. Nous allons en faire dès maintenant le moteur de notre relance. En utilisant le Green Deal européen comme une boussole, nous pouvons faire de cette crise pandémique une opportunité pour reconstruire nos économies de manière différente et les rendre plus résilientes, pour laisser un monde meilleur à nos enfants. Avec une relance verte, nous allons sortir de la crise plus forts et en meilleure santé.
Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, dont on peut se demander si elle aura effectivement les moyens de tenir le cap qu'elle s'est fixé. Et peut-être une façon de tenir le cap, ce serait d'agir justement sur les investissements plutôt que sur la réglementation, François Gemmen.
Absolument. Je suis frappé que dans son discours, Ursula von der Leyen ne parle pas, à mon avis, de ce qui serait le levier le plus important pour une relance verte, c'est-à-dire de réorienter les investissements et les subventions publiques qui continuent à être massives aujourd'hui vers le secteur des énergies fossiles. Elle parle des modes de transport, de consommation, etc. Tout ça est bien sûr important, mais on le voit bien. Aujourd'hui, ça représente globalement une baisse de 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui vraiment peut changer la donne. Ce qui doit changer la donne, ce sont les investissements et en particulier les subventions publiques vers les énergies fossiles.
C'est une proposition du Haut Conseil pour le climat, qui est un organisme indépendant installé en novembre 2018 par Emmanuel Macron, c'est-à-dire justement profiter du prix historiquement bas du pétrole pour diminuer les subventions aux énergies fossiles. C'est le bon moment?
C'est vraiment l'occasion de remettre tout ça à plat. C'est le bon moment.
Mireille Chirolleux souligne, quels seraient les avantages d'un plan de relance vert pour l'économie européenne? En quoi ce serait une façon de relancer l'emploi notamment?
Eh bien, en ciblant les investissements dans un certain nombre de secteurs qui sont susceptibles de créer des emplois tout en n'ayant pas d'impact négatif sur l'environnement ou au contraire des impacts extrêmement positifs, c'est un très bon moyen de relancer l'économie. Différentes pistes existent qui ont été mentionnées d'ailleurs par Ursula von der Leyen. Il est tout à fait possible d'investir dans les énergies renouvelables.
Le fait de développer la filière batterie notamment et d'encourager également l'économie circulaire?
Par exemple, la rénovation énergétique des bâtiments. On en parle depuis des années pour la France, mais c'est un problème qui est partagé par de nombreux pays européens. Il y a de nombreuses pistes en fait de création d'emplois dans des secteurs qui actuellement sont moins développés que d'autres. Alors peut-être Ursula von der Leyen ne mentionne-t-elle pas la réorientation d'investissements vers les énergies renouvelables aux dépens d'énergies fossiles, parce qu'elle a peut-être dans l'esprit que c'est l'objectif de la taxonomie des activités financières qui peut permettre ceci.
Pour Yannick Jadot, cependant, député européen Europe Écologie Les Verts, il faudrait aller beaucoup plus loin.
En ce moment, au niveau européen, la Commission veut continuer à négocier la réforme de la politique agricole commune comme s'il ne s'était rien passé. Continuer à faire des accords de libre-échange comme s'il ne s'était rien passé. Vous vous rendez compte que, avant la crise pandémique, on profitait de la peste porcine en Chine pour développer de manière concentrationnaire l'élevage en Bretagne, nourri par du soja qui participe de la déforestation au Brésil. Et on sait à quel point la déforestation, c'est un drame pour le climat, c'est un drame et ça accélère la propagation des virus. Nous savons aujourd'hui que la politique agricole commune, comme notre agriculture, doit être relocalisée. Ça créera plus d'emplois pour les paysans, ça créera évidemment une meilleure résilience sur les virus, sur le climat, comme sur notre alimentation.
Yannick Jadot qui soulève ici plusieurs questions. D'abord, est-ce qu'il faut repenser, selon vous, la politique agricole commune, François Gemmen?
Oui, ça fait en réalité très longtemps qu'on aurait dû le faire. On sait à quel point cette politique agricole commune déstabilise les marchés, en particulier dans les pays africains. Et effectivement, je crois qu'il y a aujourd'hui urgence à revoir cette politique agricole commune, non seulement à cause de la crise sanitaire actuelle qui, je pense, va imposer de relocaliser un certain nombre de chaînes de production, en particulier dans les domaines de l'alimentation et de la santé, mais simplement parce que derrière, il y a le changement climatique qui va mettre en péril les moyens de subsistance d'une grande partie de la population africaine. Il faut rappeler ici que la moitié de la population en Afrique subsaharienne dépend de l'agriculture de subsistance comme première source de revenus. On sait que l'agriculture de subsistance est un type d'agriculture extraordinairement vulnérable à toute variation de la pluviométrie ou de la température. Et donc, ça veut dire que s'il fait un peu plus chaud ou que s'il pleut un peu moins, que la moyenne. Ce sont les revenus de la moitié de la population d'Afrique subsaharienne qui sont menacés, et qu'une partie de ceux qu'on appelle migrants économiques qui arrivent sur les côtes européennes aujourd'hui, nous pourrions en réalité déjà les appeler des migrants écologiques ou des migrants climatiques. Et donc vraiment, oui, je crois qu'il y a un impératif à réformer cette politique agricole commune, puisse la crise actuelle en être le détonateur.
Et si la tendance aujourd'hui est effectivement un renforcement de la souveraineté alimentaire, est-ce que les traités de libre-échange, comme celui qui est en discussion entre l'Union européenne et le Mexique, devraient être encore d'actualité? François Gémen.
Je dirais que le problème, c'est qu'un grand nombre de ces traités de libre-échange sont contraires aux objectifs de l'accord de Paris. Et donc, je crois que vraiment le grand défi politique, qui n'est pas juste un défi commercial ou économique, mais un défi politique à l'avenir, ça va être d'articuler les niveaux local et international. À savoir, comment est-ce que on peut en même temps relocaliser une certaine partie des chaînes de production pour être plus résilient face aux crises, tout en maintenant un niveau d'échanges internationaux qui d'ailleurs ne doivent pas juste être des échanges commerciaux, mais également culturels, éducatifs, etc. On voit bien la tendance actuelle à la fermeture des frontières et à retrouver une certaine forme de souveraineté qui peut aussi s'accompagner, il faut en être conscient, d'une forme de repli sur soi, d'une forme d'autarcie. Et donc le grand enjeu, ça sera de garder nos démocraties ouvertes tout en relocalisant une partie de nos chaînes de production.
Venons-en maintenant à la France. Est-ce que la crise du coronavirus pourrait accélérer le passage à une économie décarbonée? C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'économie Bruno Le Maire chez nos confrères de France Inter.
Nous voulons une économie décarbonée, le président de la République l'a dit à plusieurs reprises, une économie qui soit à la pointe de la technologie. Moi, je pense que nous pouvons faire de cette crise une occasion unique de redéfinir ce que nous voulons pour notre économie et de nous donner une nouvelle ambition économique pour notre pays. Cela fait partie du contrat qui a été conclu entre Air France et l'État au moment où nous avons apporté notre soutien financier, à la fois avec un prêt garanti de l'État puis une aide directe financière de l'État. La condition, c'est que Air France devienne la compagnie aérienne la plus respectueuse de l'environnement de la planète. Oui, ça passe par des suppressions de lignes intérieures. Et très franchement, quand on peut faire le trajet en train en moins de 2h30, l'avion ne se justifie pas. Et non, ça ne doit pas être une mesure transitoire, ça doit être une mesure définitive.
Quel regard portez-vous, François Gémen, sur ces propos de Bruno Le Maire et sur cette conditionnalité des aides de l'État aux entreprises?
Très honnêtement, je voudrais pouvoir y croire. Et il est certain que les propos, en tout cas, vont dans le bon sens. Et même si j'ai pu être critique de l'action environnementale du gouvernement par le passé, je dois reconnaître qu'effectivement, la mesure qui était prise pour Air France, à savoir l'interdiction de vols intérieurs, qui peuvent être réalisés en train en moins de 2h30, me paraît aller dans le bon sens. Je crois, pour parler des compagnies aériennes, par exemple, que le futur, c'est qu'elles deviennent des compagnies de transport et qu'elles allient à la fois le transport aérien et le transport ferroviaire et qu'elles mettent en œuvre des TGV, y compris pour amener leurs passagers dans certains grands hubs. Et donc, comme l'a dit Bruno Le Maire, effectivement, ça peut être une occasion de transformation de l'économie, mais il ne faut pas sous-estimer la puissance des forces qui voudront que cette transformation n'arrive pas ou arrive le plus tard possible, y compris dans le secteur aérien. Et donc, il faudra, de la part des gouvernements, énormément de volontarisme pour résister. Et il faudra qu'ils puissent véritablement mettre des garde-fous inscrits dans la loi. Donc, je voudrais croire à ce que dit Bruno Le Maire. J'attends maintenant de voir comment ça va se transcrire en actes et surtout en loi.
Air France s'est engagée à réduire de 50% ses émissions de CO2 par passager et par kilomètre entre 2005 et 2030. Mais effectivement, toute la question réside dans le caractère contraignant de cet engagement et sur la capacité de l'État à faire tenir cet engagement.
Bien sûr. Et le problème, c'est qu'en 2030, tout le monde aura oublié cette promesse. Nous oublions nos résolutions de nouvel an dès le 2 ou le 3 janvier. Donc effectivement, comment croire qu'on se souviendra encore en 2029 d'une promesse qu'Air France avait faite? C'est pour cela qu'il faut vraiment des cadres normatifs et réglementaires forts. Et c'est là vraiment où on va pouvoir juger de la sincérité des gouvernements lorsqu'ils affirment qu'ils souhaitent mettre en place une économie décarbonée après la crise.
Vous parliez tout à l'heure, François Gémen, de ces entreprises qui s'engagent en faveur du climat. Plus de 90 dirigeants d'entreprises françaises et internationales ont justement appelé dans une tribune parue dans le journal Le Monde à une mobilisation collective pour que la relance économique soit un accélérateur de la transition écologique. Qu'est-ce que vous pensez de cette tribune, Mireille Chirolet-Assouline?
Cette tribune manifeste la claire envie de ces entreprises de peser sur la façon dont les plans de relance peuvent être établis et d'insister sur la nécessité de soutenir certains secteurs dans lesquels ces entreprises interviennent. C'est-à-dire que c'est un lobbying positif en faveur d'une transition écologique dans laquelle ils savent qu'ils peuvent intervenir. Maintenant, quand on regarde les signataires, certains signataires sont aussi à l'origine de mouvements de lobbying dans l'autre sens. Je pense au MEDEF, par exemple, ou à la FEP.
Le MEDEF qui a effectivement, par la voix de son président Geoffroy Roux-de-Bézieux, demandé un moratoire sur plusieurs dispositifs environnementaux.
Exactement.
N'oublions pas qu'aux États-Unis,
François Gémen,
la plupart des grandes entreprises financent à la fois le candidat démocrate et le candidat républicain de manière d'être dans les bonnes grâces du candidat qui sera finalement élu. Beaucoup d'entreprises françaises ont la même stratégie, un coup à gauche, un coup à droite. Mais par contre, je pense qu'il faut encourager véritablement les entreprises qui s'engagent dans la voie de l'économie carbonée à le faire savoir et que quelque part, les gouvernements n'auront le courage de prendre ces mesures que s'ils savent qu'elles seront soutenues par un certain nombre d'entreprises. Et donc, il est très important que ces entreprises fassent entendre leur voix face à certains lobbies qui voudraient nous ramener en arrière.
Et en tout cas, Geoffroy Roux-de-Bézieux a fait machine arrière, Mireille Chirolleux a souligné, puisque sa déclaration, sa demande au gouvernement, et notamment, il remettait en question le dispositif qui doit restreindre la circulation des véhicules polluants dans les grandes villes, cette demande a beaucoup choqué.
Oui, bien sûr, mais le MEDEF est aussi intervenu au niveau européen dans des actions de lobbying pour retarder des mesures prévues. La FEP, l'Association française des entreprises privées, est également intervenue au niveau européen et donc il y a en quelque sorte un double langage. Alors, est-ce qu'on peut interpréter ça comme le fait de vouloir jouer sur les deux tableaux? Je pense qu'à un certain moment, il faudrait quand même que les entreprises qui sont le plus motivés par soutenir l'action en faveur de la transition écologique, prennent leurs véritables responsabilités et s'efforcent de ne plus être associés à ces mouvements de lobbying qui vont en sens inverse.
François Gémen.
Ce qui pose aussi parfois la question, je trouve, de la représentativité du MEDEF ou des lobbies patronaux. Moi, je connais énormément d'entreprises qui aujourd'hui ne se sentent plus représentées dans le MEDEF et peut-être qu'il faudrait que ces entreprises développent aussi une certaine forme de contre-lobby et affirme clairement que les lobbies officiels du patronat ne les représentent plus et qu'elles ont envie de s'engager dans une autre voie.
Ce serait une bonne solution, oui.
On arrive à la dernière partie de cette émission et je voudrais partager avec vous ce récent sondage publié dans Les Échos et selon lequel 68% des Français se disent prêts à adopter un comportement plus éco-responsable après la pandémie et plus des trois quarts considèrent que cette crise sanitaire est l'occasion de mener une politique ambitieuse de transition écologique. Qu'est-ce que cela nous dit, ça, François Gémen, que l'opinion publique continue de changer et pourrait représenter une forme de pression à l'égard des gouvernements?
Je dirais que ça ne me surprend pas du tout et que ça s'inscrit dans un courant d'évolution de l'opinion auquel on assiste depuis environ 2 ans, notamment suite aux manifestations et aux grèves des jeunes pour le climat. Et je pense que c'est véritablement un changement tectonique dans l'opinion publique. On sait que la question du climat est devenue aujourd'hui une des principales préoccupations des Français. Et parfois, j'ai l'impression que les politiques sous-estiment le degré de préparation de l'opinion et des Françaises et des Français à cette économie décarbonée en accord avec les objectifs de l'accord de Paris.
Il faut aussi rappeler qu'au premier tour des élections municipales en France, les Verts sont arrivés en tête dans plusieurs villes, à Lyon, à Strasbourg, à Grenoble et à Besançon. François Gémen, vous vouliez ajouter quelque chose sur la question de la société civile et du rôle que la société civile doit jouer aujourd'hui?
Je pense que le rôle de la société civile est absolument crucial dans ces évolutions. J'ai l'impression qu'il y a encore quelques années, les gens pensaient qu'ils pouvaient surtout agir contre le changement climatique par leurs actes de consommation en tant que consommateurs individuels et que de plus en plus, ils réalisent qu'il leur faut agir non seulement en tant que consommateurs, mais aussi et surtout en tant que citoyens et qu'ils doivent donc se réapproprier les leviers des choix et des décisions collectives. Et pour moi, c'est le principal motif d'optimisme face aux défis qui nous attendent demain dans le champ du changement climatique. C'est effectivement la puissance de la société civile, le fait que les gens réalisent qu'ils doivent agir En tant que citoyen, il faut maintenant voir comment cette société civile peut être mieux représentée, y compris dans les négociations internationales. Aujourd'hui, les négociations internationales sont encore exclusivement menées entre gouvernements. J'espère que la COP26 sera pas une COP25 plus 1, mais puisse vraiment être une sorte de COP0 qui remette tout cela à plat et qui fasse entrer à la table de négociation d'autres acteurs, les entreprises dont on a parlé, mais aussi les municipalités et les pouvoirs locaux, et bien entendu la société civile. C'est à mon avis une façon de renouveler profondément la coopération internationale après cette crise.
François Gemène, Mireille Chiroleux-Assouline, on va finir cette émission avec un dernier extrait sonore.
Je pense que ce qui est à remettre en cause, c'est l'homme de Vitruve, hein, de Léonard de Vinci, c'est-à-dire un homme qui, et c'est pas un hasard, est un mâle blanc, tout seul, armé de la géométrie et qui n'a aucun lien avec la nature. Et aucun lien avec le genre féminin au passage d'ailleurs. Donc c'est ça qu'il faut remettre en cause. C'est cette espèce de sujet occidental dans une solitude métaphysique totale qui ne devrait rien à personne et qui ne serait pas en dépendance radicale, très profonde avec les autres humains et avec son environnement. Le fait que nous soyons capables de détruire la planète, ça, c'est pas une question d'idéologie. Je veux dire, le fait qu'aujourd'hui on soit biologiquement le super prédateur de l'ensemble du règne animal, c'est pas d'ordre idéologique. Ce qui est idéologique, c'est ce que nous en faisons. C'est ça qu'il faut que nous apprenions. C'est-à-dire, nous avons une puissance extraordinaire à notre disposition. Et ce dont nous devons apprendre, c'est à utiliser cette puissance intelligemment, c'est-à-dire en coopérant avec le règne du vivant, en apprenant à vivre en bonne intelligence avec l'ensemble du vivant et l'ensemble des écosystèmes dont nous dépendons aujourd'hui plutôt que de le détruire. C'est ça. Et c'est là que l'idéologie et notamment la question de l'homme de Vitruve entre en jeu.
L'économiste Gaël Giraud, que l'on entendait à l'instant, nous y invite, François Gemène. Il faut impérativement repenser notre rapport à la nature. Vous êtes d'accord avec cela ?
Absolument, notre rapport à la nature et notre rapport aux autres. Je suis très frappé de la manière dont nous sommes quelque part autocentrés. On entend beaucoup ces temps-ci ce message selon lequel la crise du coronavirus serait en quelque sorte le dernier avertissement avant le changement climatique ou une préfiguration du changement climatique. On oublie que le changement climatique est déjà là depuis des années, déplace des millions de personnes chaque année, fait aussi des milliers de morts. Mais quelque part, on ne le voit pas parce que ça se passe loin de chez nous. Et en réalité, c'est le changement climatique qui aurait dû nous alerter sur le coronavirus et pas l'inverse. Et donc, je suis frappé de la manière dont, quelque part, nous raisonnons souvent par rapport à nous-mêmes. Et je dirais qu'une des grandes leçons de cette crise, c'est la solidarité assez incroyable qu'on a vue à l'œuvre dans nos sociétés, où, au fond, on a provoqué une crise économique artificielle pour protéger les plus fragiles et les plus vulnérables. La grande question, c'est de savoir si nous allons pouvoir projeter cette solidarité au-delà de nos frontières nationales, ça impliquera de nous décentrer, je crois, par rapport aux autres et plus globalement par rapport aux vivants.
Mireille Chiroleux-Assouline.
En ce qui me concerne, je suis un peu plus pessimiste sur les enseignements qu'on peut tirer à la fois des comportements pendant la crise du coronavirus et vis-à-vis du changement climatique. La solidarité qu'on a vue et les mouvements qui ont conduit à accepter le confinement, c'est juste l'expression du fait que chacun s'est senti menacé pour soi-même et pour ses proches. L'argument qui est apporté au tout début, c'est vous ne voudriez pas que vos grands-parents meurent à cause de la circulation du virus. Jusqu'à présent, le changement climatique était vécu par les populations riches des pays développés comme quelque chose qui se passerait dans un lointain futur ou qui se passerait loin sur la planète. Ce qui change maintenant, c'est que ce sont les jeunes générations d'aujourd'hui qui pensent qu'elles vont aussi subir les dommages du changement climatique. Et c'est la raison pour laquelle l'opinion change. Ce ne sont pas les mêmes personnes en réalité qui expriment des opinions différentes. Personne n'est plus altruiste qu'autrefois. En revanche, davantage de personnes se sentent concernées directement. Et donc, la société va évoluer parce que les gens seront plus directement concernés.
C'est vrai qu'avec le coronavirus, nous pouvons espérer un bénéfice immédiat et pour nous-mêmes des mesures que nous prenons. Avec le changement climatique, nous ne pouvons pas espérer un bénéfice immédiat et pour nous-mêmes. Et donc, ce sera le grand défi, je dirais, de la lutte contre le changement climatique. Est-ce que nous sommes capables d'agir non pas pour nous-mêmes, mais pour d'autres qui sont au-delà de nos frontières, que ces frontières soient géographiques ou générationnelles ?
Don't have to be beautiful. La reprise de Kiss de Prince par Joanna the Police Woman, qui a sorti un deuxième album de reprise la semaine dernière intitulé Cover 2. Merci beaucoup François Gemen et Mireille Chirolet-Assouline de nous avoir accompagnés aujourd'hui malgré les multiples problèmes techniques qui ont émaillé cette émission. Et merci à Audrey Guélil, à la technique et au CDM mobilisé depuis la maison de la radio. Demain, nous vous offrons en nouvelle écoute un portrait de la philosophe et romancière américaine Ayn Rand, auteure de La Grève et de la Source Vive. Mais d'abord, dans un instant, c'est l'heure de la Compagnie des Poètes avec Manou Farid.
Baby, if you wanna impress me, you can't be too far in my mind. I know how to undress me. I want to be
time.